real upset, as it was in several areas of Quebec, in which you saw a long-standing Liberal MP losing his or her seat to a new...
Nous poursuivons notre thème, qui donc est Dieu. Et je vous relis certains textes. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois, tu sondes mon cœur à ton égard. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour me cacher à toi, et la nuit resplendit comme le jour, l'obscurité est comme la lumière. Mes bien-aimés, hier matin, pour répondre à notre question, qui donc est Dieu, nous avons interrogé le prophète Élie, suscité par Dieu dans le royaume du Nord, au temps du roi Achab et de la reine Jézabel, de sinistre mémoire. Elle voulait tuer Élie, qui devait monter au ciel, sans passer par la mort, alors qu'elle allait être jetée par la fenêtre de son palais et être dévorée par des chiens, ne lui laissant que son crâne, ses mains et ses pieds de meurtrière de Naboth, le Jisraélite. Cet Élie nous a donc rendu témoignage de ce que Dieu avait été pour lui en son temps, dans la sécheresse, dans la famine, sur le mont Carmel, dans le désert, jusqu'au jour où, découragé, il demanda la mort pour son âme, se croyant inutile et solitaire, alors que Dieu lui réservait un avenir. Les hommes passent, mais Dieu demeure. Élie, le grand prophète, aura un successeur, Élisée, qui recevra même la double mesure de l'esprit qu'avait Élie. Oui, il s'agit d'Élisée, ce matin. C'est Élisée qu'Élie oindra comme prophète à sa place. Et Jésus lui-même a parlé d'Élisée en disant à Nazareth, sa ville, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et pourtant Élisée le prophète ne fut envoyé auprès d'aucun d'eux. Élisée, toi dont le nom veut dire Dieu qui sauve, veux-tu nous dire quelle fut la fin de ton maître et ce que toi-même tu as su de Dieu? J'étais en train de labourer les champs de mon père à Abel Meola, avec 12 paires de bœufs. Tout en travaillant, je pensais au prophète Élie, dont tout le peuple savait que Jézabel voulait la mort. Pourrait-il échapper? Juste à ce moment, alors que j'étais à la hauteur de la 12e paire de bœufs, soudainement, je sentis un manteau tomber sur mes épaules. Quelqu'un venait de passer, et c'était, figurez-vous, Élie lui-même, auquel, justement, je pensais. Et je savais bien ce que ça voulait dire, le manteau jeté sur mes épaules. Je savais ce que cela signifiait. Alors, quittant les bœufs, je dis à Élie, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie me répondit, « Va et reviens, et pense à ce que je t'ai fait. » Alors, après m'être éloigné, je revins, je pris une couple de bœufs et dressai un autel et les offris en sacrifice, brûlant leur chair sur le bois de l'attelage des bœufs. Et je fis manger tout le peuple. Puis, je me levai et je suivis Élie et fus à son service. Vous savez, j'ai vu faire des choses extraordinaires. Il pouvait faire descendre le feu du ciel qui dévorait le chef d'une troupe de 50 hommes qui venait pour l'arrêter. Et le chef lui avait dit, « Homme de Dieu, descends !» Et il lui répondait, « Si je suis un homme de Dieu, eh bien que le feu descende du ciel et te dévore, toi et ta cinquantaine. » Et cela eut lieu par deux fois. Mais pourtant, cet Élie était plein de douceur et d'un grand amour. Et quand un troisième chef fut envoyé par le roi pour arrêter Élie, eh bien, je l'ai entendu dire, ce chef, que ma vie soit précieuse, et le Seigneur a donné un ordre à Élie, et il l'a épargné, et Élie est descendu vers le roi qui voulait le faire arrêter. Le Seigneur lui avait dit, sois sans crainte, descends vers le roi. Alors Élie est descendu vers Azaria, qui était tombé du toit de sa maison et voulait consulter Baal-Zébuth, le dieu des mouches, pour savoir s'il se rétablirait. Et c'est là qu'Élie a dit, n'y a-t-il pas de prophète en Israël pour que tu ailles consulter Baal-Zébuth, le dieu des mouches? Eh bien, tu ne descendras pas de ton lit, tu mourras sur ta couche. Et voilà, j'ai accompagné Élie. Et un jour, Élie m'a dit, je pars à Gilgal. Et nous sommes partis ensemble à Gilgal. Puis là, il m'a dit, reste à Gilgal parce que Dieu m'envoie à Bethel. Et j'ai dit, non, je ne me séparerai pas de toi. Alors nous sommes allés à Bethel. Là, il m'a dit, reste ici. Le Seigneur m'envoie plus loin. Il m'envoie à Jéricho. Et je lui ai dit, jamais je ne me séparerai de toi. Et les prophètes, les fils des prophètes qui étaient là et qui nous voyaient passer, nous disaient, est-ce que tu ne sais pas, Élisée, que l'Éternel va enlever ton maître de dessus toi? Taisez-vous, leur répondait. Et nous avons continué. De Jéricho, il me dit, je m'en vais jusqu'au Jourdain. Reste ici. J'ai dit, non, je ne resterai pas, j'irai avec toi. Et nous sommes arrivés au bord du Jourdain, mais il fallait le traverser. Alors je vois Élie qui prend son manteau et qui frappe le Jourdain. Le Jourdain s'ouvre et nous passâmes tous les deux à pied sec. Et nous continuâmes la route en marchant et en nous parlant l'un à l'autre. Et tout à coup, Élie se tourne vers moi et il me dit, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Alors, je lui ai dit, je voudrais recevoir la double mesure de ton esprit. Élie m'a regardé et m'a dit, mais c'est une chose difficile que tu demandes. Toutefois, si vraiment tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera, tu recevras ce que tu as demandé. Alors, vous figurez bien que en avançant, je n'avais les yeux fixés que sur Élie. Nous parlions, mais j'avais toujours les yeux fixés sur lui, car il m'avait dit, si tu ne me vois pas, cela n'arrivera pas. Mais si tu me vois partir, cela arrivera. Et tout à coup, un chariot de feu est descendu du ciel et a passé près de nous, et Élie a laissé tomber ses vêtements, son manteau, et il a été enlevé dans les chariots de feu. Moi, je me suis écrié, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il était parti dans la gloire. sont passés par la mort. J'étais seul, j'ai ramassé ses vêtements, je les ai déchirés en deux, puis j'ai pris son manteau, et puis je suis allé vers le Jourdain, et là j'ai dit, Éternel, Dieu d'Élie, et j'ai frappé le Jourdain, et la même chose s'est produite, le Jourdain s'est ouvert, et j'ai pu passer. Et depuis, eh bien, le Seigneur m'a employé d'une façon extraordinaire. Je ne veux pas vous raconter tous les miracles qu'il m'a été donné d'accomplir dans une dépendance absolue du Seigneur. J'ai fait là, avec lui, des expériences tout à fait bouleversantes. D'abord, l'eau était non potable à un certain endroit et le Seigneur m'a enseigné comment la rendre saine en y mettant du sel. Puis, il n'y a qu'un souvenir triste quand je montais à Bethel et que j'avais quitté Jéricho, Jéricho qui était pourtant une ville où l'on connaissait le Seigneur, eh bien des enfants de Jéricho, des enfants qui connaissaient la parole de Dieu, se sont moqués de moi quand je montais vers Bethel, et ils criaient derrière moi, « Monte chaud, monte chaud !» Alors je me suis retourné et je les ai maudits. Mais je ne savais pas ce qui allait arriver. Deux ours sont sortis et ont... sont tombés sur ces petits garçons. J'en avais le cœur bouleversé. Alors plus jamais, je maudirai des enfants. C'est aux parents de corriger leurs enfants, parce que si l'on dit, le Seigneur te punira. Si vous dites une chose pareille à vos enfants, le Seigneur va te punir. C'est pas au Seigneur de les punir. Il vous a délégué l'autorité, c'est à vous. Parce que si vous dites, le Seigneur va te punir, Dieu te punira. Vous ne savez pas ce qui peut arriver. J'en ai fait l'expérience. Mais, évidemment, j'ai continué. Dieu m'a donné un ministère de grâce. J'ai pu nourrir 100 hommes avec 20 pains, le pain étant multiplié. J'ai pu rendre sain un potage empoisonné. Et puis, faire remonter un fer de hache qui était tombé dans le Jourdain en y jetant un bois. Et même à Sunem, oui, cette ville des Sunamites, à Sunem, il m'a été donné de ressusciter, comme Élie l'avait fait, un jeune garçon qui était né à cette femme qui me recevait. Et je pourrais continuer en vous parlant de la visite du général Naaman, le Syrien, le lépreux, et qui fut guéri, entièrement nettoyé de sa lèpre quand je l'envoyais se tremper 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et nous pourrions encore continuer de parler de la ville de Samarie qui était entourée des armées étrangères et mon jeune homme qui avait tellement peur, j'ai dit à Dieu, ouvre-lui les yeux. Et quand il ouvrit les yeux, il a pu s'écrier, mais je vois des chariots de feu tout autour de la ville. Et je lui ai dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et j'arrête. Et figurez-vous, vous me demandez quel a été mon Dieu, qui est notre Dieu. Mais c'est le Dieu qui peut tout. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Et même, si vous voulez le savoir, quand je fus enterré et que mon tombeau était à demi ouvert, lors d'une bataille, on devait enterrer les morts et on n'en avait pas le temps. On a jeté le cadavre d'un soldat sur mes os. Et en touchant mes os, le soldat est revenu à la vie. Voilà ce qu'est mon Dieu. Ô Dieu notre Père, nous voudrions vraiment que ce ne soit pas de l'histoire sainte tout cela, mais que nous soyons empoignés et que nous puissions comprendre tout ce que tu peux faire. Et c'est tellement vrai que si ta parole est reçue dans nos cœurs, elle aura une puissance même sur nos os. Ce sera la santé de tous nos hommes. Ô notre Dieu, nous te demandons que tu nous donnes de croire. Fais-nous la grâce de croire. de revenir entièrement à toi pour connaître cette puissance délivrante. Pour ta seule gloire. Amen. Mercredi 30 juillet, et nous continuons notre interrogation sur le thème « Qui donc est Dieu ?» Et je lis les versets qui introduisent nos matinées. « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, je ne le savais pas. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Où irai-je, loin de ton esprit? Où fuirai-je, loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Mes bien-aimés, évitant de répondre à notre question thème qui donc est Dieu par des définitions théologiques ou philosophiques qui ne satisferont personne, nous avons pris sur nous le soin d'interroger jour après jour des hommes dont la vie témoigne vraiment que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors ce matin, nous poserons notre question à un homme originaire du Moyen-Orient et qui occupait les plus hautes tâches, les plus hautes fonctions en Babylonie et en Perse, l'Iran actuel. Vous l'avez reconnu, il s'agit de Daniel, dont le nom veut dire « jugement de Dieu ». Que nous apprend-il ? Mais je suis né au pays d'Israël. J'étais issu d'une famille noble, proche de la race royale. Le Dieu de mon enfance était celui d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et de Josué, le Dieu de David et le Dieu des prophètes, particulièrement Ésaïe et Jérémie. Je suis né dans les derniers jours du règne du roi Josias, qui cherchait avec le prophète Jérémie à faire revenir le peuple de Juda et de Jérusalem à l'Éternel, car nous étions tombés dans toutes sortes de coutumes idolâtres. Mais hélas, en l'an 606, Jérusalem fut prise, et je fus emmené prisonnier alors que je n'étais qu'un adolescent avec d'autres jeunes gens de famille illustre en Babylonie. Vrai fils spirituel de Jérémie, dès ma jeunesse, j'étais très attaché à la loi de Moïse, dont on avait retrouvé un volume dans le temps au temps du pieux roi Josias. J'arrivais donc parmi les captifs d'Israël à la cour du roi Nebuchadnezzar avec trois autres jeunes, Anania, Misaël et Azaria, dont les noms furent changés en Sadrach, Mésac et Abednego, dont certainement vous avez entendu parler au sujet de la fournaise ardente qu'ils subirent, mais dont ils furent merveilleusement délivré par le Seigneur lui-même, le quatrième au sein de la fournaise. Ensemble, nous fûmes instruits durant trois années dans la sagesse des Chaldéens et nous dûmes apprendre la langue chaldéenne. Je dois dire que nous étions extrêmement bien traités, Mais à cette cour d'un roi païen, avec mes amis, nous décidâmes de rester purs. Par notre éducation à Jérusalem, nous savions faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, non pas comme en votre temps où l'on ne fait plus de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, où tout est gris, ni noir ni blanc. Ce sont vos émissions et vous ne voyez plus que gris. Notre préparation, donc, devait durer 3 années. Et dès le début, nous avons décidé dans notre cœur que nous ne nous soudurons pas avec les mets délicats du roi qui nous était offert. Mais notre décision de rester fidèle à la loi de notre Dieu au sein d'un peuple idolâtre n'allait pas sans difficulté. Toutefois, Dieu nous fit trouver grâce auprès du chef des eunuques, et après une mise à l'épreuve de 10 jours, on constata que notre régime végétarien n'avait pas entamé notre bonne mine, alors que d'autres étaient tout boutonneux. Nous avions la peau lisse et une mine superbe. Finalement, nous fûmes présentés au roi, qui nous confia des postes élevés dans son royaume. Et vous connaissez la suite. Un jour, le roi eut un songe extraordinaire, et il eut la prétention de demander au sage de Chaldée de lui révéler quel songe il avait eu, sans l'expliquer lui, sans nous dire quel songe il avait eu. Il voulait qu'on lui donne et le songe et l'interprétation, parce qu'il se méfiait de nos arrangements. Et son arrêt fut si sévère qu'il nous donna cet ordre: si vous ne nous dites pas mon songe, eh bien, vous serez exécutés. Quand j'ai su cela, je suis descendu vers Arioch, un des gardes, et je lui ai demandé qu'il aille trouver le roi et qu'il nous donne un temps de réflexion encore. Ce qu'il accorda, et avec mes 3 amis, nous nous jetâmes sur nos genoux, nous eûmes une nuit de prière, et le Seigneur me révéla. Et le songe, que vous connaissez certainement, la grande statue, et aussi son interprétation. Alors, je pus me présenter devant le roi et lui expliquer les choses. Il fut bouleversé, car il s'est bien rendu compte que les hommes sur la terre ne peuvent pas connaître ces choses. Et je lui ai bien dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma sagesse, mais il y a un Dieu dans le ciel qui révèle les songes. Et voilà ce qu'il te dit. Et le roi a été tellement touché qu'il a fait une proclamation demandant que dans ses états, on adore le Dieu de Daniel, qui seul était sage et pouvait révéler les secrets. Mais voilà, les rois meurent, Nebuchadnezzar est mort, puis il eut un descendant, Belshazzar, et là aussi, je dus intervenir, car la mère du roi me fit appeler, me disant que Belshazzar avait fait un festin extraordinaire, et ils avaient pris pour boire et manger avec les concubines, et toutes les femmes du royaume, ils avaient pris les ustensiles du temple de Jérusalem qu'on avait emportés, et ils avaient chanté, ils avaient bu, enfin ils avaient fait un festival monstre, le festival de Belshazzar. Et tout à coup, Belshazzar, qui était si sûr de lui, on l'a vu commencer à trembler dans ses culottes. Oh non, pardon, dans sa robe, oui, parce que c'était une robe ce temps-là. Mais ses genoux s'entrechoquaient comme ça, hein. Et c'était pas beau, c'était pas des exercices physiques de Mademoiselle Mercier. Et alors, tout à coup, on a vu sur la muraille un doigt. Le doigt qui avait écrit les 10 commandements sur les tables. Il écrivait maintenant sur la muraille, Mene, Mene, Tekel, Upazim. Ce qui veut dire, tu as été pesé et tu as été trouvé léger, compté, compté. C'était le royaume qui allait passer à d'autres. Et alors, avec ses grands, ils étaient dans la détresse. Et la reine mère est venue me trouver parce que le roi voulait une explication. Et j'ai pu me présenter dans cette soirée et lui donner l'explication et lui dire que c'était la fin de son règne. Dans la nuit même, il fut tué et le roi de Perse prenait Babylone la grande, entrant par les souterrains de la ville. Et voilà, ce fut un autre règne. Babylone est mis de côté, mais maintenant les Mèdes et les Perses règnent, mais moi je reste. On me demande, Darius me confie une grande autorité dans son royaume, mais il y a des jalousies, on cherche à me détruire, on examine tout ce que je fais, je suis suivi partout, ils ne trouvent aucune occasion, et ils disent, il n'y a qu'une chose qui pourrait lui nuire, c'est qu'on le prenne sur sa religion. Car, évidemment, lisons les écritures que j'avais pu avoir en quittant Jérusalem. J'avais pris ces livres et je savais ce qu'il était dit, que si on se tournait du côté de Jérusalem quand on serait en exil, eh bien le Dieu qu'avait honoré Salomon à la dédicace du temple avait fait la promesse qu'il répondrait. Alors, chaque jour, trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, je me tournais vers Jérusalem et je priais. Et alors ils ont demandé au roi qu'on interdise toute prière à un autre Dieu qu'à lui-même, parce qu'on le déifiait. Et le roi s'est laissé prendre. Il ne savait pas que c'était quelque chose fait contre moi. Et vous connaissez la suite. On me surprit dans ma prière, parce que je n'avais pas à changer mes coutumes. Bien sûr que j'aurais pu me dire, mais je ne m'en vais plus me mettre à genoux. Mais je prierai intérieurement. Mais mon témoignage, c'était la prière à genoux. J'ai continué à genoux, pour qu'on voit bien qu'il n'y a rien de changé. Alors on m'a surpris, et puis, comme ça avait été averti, je serai jeté dans la fosse aux lions. Peu importe, je suis au Seigneur. Et le roi était navré, il ne pouvait pas revenir en arrière parce que les décrets des Mèdes et des Perses sont irrévocables. J'ai été jeté dans la fosse aux lions. Des lions affamés, quand ils sont venus vers moi, ils étaient mignons, des amours. J'ai pu même dormir sur eux, comme ça, tranquillement. Tandis que le roi, dans son lit, il n'a pas même pris ses concubines, il n'a pas pu dormir, lui. Tandis que moi, j'étais bien. Alors le matin, le roi est venu de très bonne heure, puis il a dit, en se penchant sur la fosse, « Daniel, Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers a pu te délivrer ?» Et je lui ai dit, « Oh roi, vise à jamais, je n'ai jamais passé une si bonne nuit. » Et alors, j'étais dans la reconnaissance, et le roi a fait un décret que désormais, toutes les nations du royaume devaient honorer le Dieu de Daniel. Et je pourrais vous dire, après tout ce que Dieu m'a révélé, dans des songes, dans des visions, et je l'ai vu, et je l'ai rencontré. Oh, ce corps semblable à une pierre précieuse de chrysolite. Quand je l'ai vu, mon teint frais s'est décomposé. Je suis tombé à terre, j'ai oublié mes titres, j'ai oublié toute mon instruction, tout ce que j'avais appris. On se glorifie tellement quand on a pu faire quelques études. Eh bien, j'ai tout mis ça par terre, et moi j'étais par terre, devant le Seigneur. Je n'avais plus de force. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a mis sa main sur moi, et il m'a relevé, puis il m'a dit, ne crains pas. Homme bien-aimé, il m'a dit que j'étais un bien-aimé, figurez-vous. Sois fort, oui, sois fort. Et j'ai été relevé. Et alors un jour, en lisant justement les livres que j'avais, spécialement Jérémie, j'ai compris que la captivité n'allait pas durer toujours, que Dieu avait dit qu'au bout de 70 ans, il visiterait son peuple, et les 70 ans étaient passés. Alors je me suis mis à genoux, je me suis humilié pour mes propres péchés, et j'ai rappelé à Dieu ses promesses. Tu l'as dit, et voilà que ça s'est accompli. Mes amis, vous me demandez, qui est Dieu? Qui donc est Dieu? Eh bien, je puis vous dire, Dieu est le Dieu vivant qui révèle ses secrets à ses prophètes, à ceux qui se tiennent devant lui, qui vous révèle l'avenir. Vous voulez les dernières nouvelles? Eh bien, cesser de perdre tant de temps à votre radio ou à votre télévision, lisez l'écriture et vous aurez les dernières nouvelles et vous saurez aussi qu'il y a une résurrection. Il me l'avait révélé. Dieu notre Père, nous te demandons que tu nous donnes la grâce d'être comme Daniel, de ne pas avoir seulement des doctrines, mais une parole qui est incarnée dans nos vies pour ta gloire. Amen. C'est le dernier jour du mois de juillet et nous continuons notre thème « Qui donc est Dieu ?» Et je vous cite le verset qui a ouvert la première partie de notre camp et que nous avons retrouvé d'une façon assez merveilleuse dans la grande Bible ouverte à Saint-Benoît-du-Lac. « L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Puis le texte qui a ouvert le second camp. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? Un homme se cachera-t-il dans une cachette où je ne le vois pas? Tu es près de leur bouche et loin de leur cœur. Et toi, Éternel, tu me vois et tu sondes mon cœur à ton égard. Mais bien aimé, pour répondre à notre question thème, qui donc est Dieu, nous avons interrogé des hommes dont la vie a été en leur temps la preuve de l'existence de Dieu. Ils sont morts, mais leur vie parle encore aujourd'hui, et témoigne que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, puisque pour lui tous vivent. Abraham, Isaac et Jacob et Job, parmi les patriarches, nous ont interpellés. Moïse et Josué, Samuel et David, Élie et Élisée, et enfin hier, Daniel. L'homme bien-aimé. Nous eûmes même l'occasion d'entendre le témoignage d'Enoch, l'homme qui ne mourut pas et qui, avec Élie, ne connurent pas la vallée de l'ombre de la mort et les humiliations du sépulcre, Dieu les ayant pris pour être un signe à la génération qui vivra au moment de la seconde venue du Christ, selon qu'il est écrit, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil. Ce matin, c'est à l'apôtre Pierre et à l'apôtre Paul que nous poserons notre question, qui donc est Dieu? J'étais frappé un jour à Rome, dans les catacombes, de voir constamment cette inscription sur les tombes, Pierre et Paul, tous les deux unis, ces deux hommes témoins du Seigneur qui subirent leur martyre. Alors, nous commençons par Pierre. Pierre, pour toi, qui donc est Dieu? Et que nous dit-il? Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, dans sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous me demandez comment j'ai connu Dieu ? Mais par son Fils unique, Jésus-Christ, qui m'a dit un jour, « Toi, suis-moi. » Lui m'a conduit à son Père et à son école. J'ai appris qui était Dieu, le Dieu vivant. Si vous voulez en savoir plus sur ce que j'ai appris de Dieu, lisez l'Évangile, spécialement l'Évangile de Marc, Marc ayant été mon secrétaire, et notant ce que je disais du Seigneur dans mes prédications, et lisez aussi mes deux lettres, et consultez les écrits de mon bien-aimé frère Paul et le livre des Actes. Alors Pierre, nous renvoyons à Paul, nous questionnons Paul, toi aussi qui fus appelé apôtre, que penses-tu et que peux-tu nous dire au sujet de la question que nous nous posons dans ce camp? Qui donc est Dieu? Moi, j'étais autrefois Saul de Tarse. Je n'ai pas connu comme Pierre le Christ selon la chair. Je n'ai pas été témoin oculaire de sa résurrection. Mais je puis tout de même vous affirmer que le témoignage de Pierre est véritable. Je connaissais Dieu par tradition, par éducation, mais un jour, je l'ai connu par une révélation. J'ai vu son Fils dans la gloire. Et tout ce que j'ai écrit vient de lui, du Christ glorifié, et ne fait que confirmer le témoignage de Pierre qu'il a connu sur la terre. Moi, je l'ai connu, je l'ai vu dans la gloire, comme Étienne l'avait dit, qu'il voyait Jésus debout à la droite de Dieu. Il n'avait pas menti. Et j'ai appris que j'avais été choisi dès le ventre de ma mère pour devenir son témoin auprès de tous les hommes. Choisi pour connaître sa volonté, pour voir le juste et entendre les paroles de sa bouche. Si vous voulez savoir ce que Dieu est, bien lisez mes lettres et consultez le livre du médecin bien-aimé Luc, mon compagnon d'œuvre. C'est dans son évangile qui porte son nom que vous trouverez l'évangile que j'ai prêché, l'évangile que j'ai reçu du Seigneur directement dans la gloire, et que j'ai prêché aux païens et aux juifs. Ce que je vous dis, Dieu, il était en Christ, et il réconciliait le monde avec lui-même. Ce que j'ai à vous dire, c'est ce que j'ai proclamé jadis à Athènes, devant les philosophes réunis à l'Aréopage. Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie le mouvement est l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes de sa race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Demain, après avoir entendu le témoignage de Pierre et de Paul, nous entendrons un dernier témoignage, celui de l'apôtre qui a vécu le plus longtemps après que Jésus soit monté au ciel. Vous l'avez reconnu, ce sera Jean. Dieu notre Père, nous voulons te remercier pour les témoins qui, au travers des âges, nous ont parlé de toi avec tant de vie, avec tant de puissance. Oh, pour eux, Dieu n'était pas une idée. Il était une personne, un Père qui nous a été révélé en ce Fils bien-aimé. Et nous voulons te demander que cette avant-dernière journée soit pour nous tous une journée de révélation. Qu'il te plaise de révéler ton Fils en chacune de nos vies, afin que nous ne soyons plus des chrétiens de tradition ou des chrétiens par éducation, mais des croyants qui le sont par une révélation pour ta seule gloire. Amen. Ce vendredi 1er août, qui est pour nous Suisses la fête nationale, nous nous posons encore cette question: qui donc est Dieu? Et je vous rappelle ce texte que vous pourriez réciter par cœur. L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'attire avec bonté. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et nous espérons de tout notre cœur que vous l'avez vu, cette porte des cieux ouverte, et que vous êtes entrés. C'est encore l'heure de la grâce, c'est encore le temps pour vous d'entrer. La porte est ouverte. Et le Seigneur vous dit: monte ici. Pour répondre à la question thème de notre camp, cette question qui est revenue chaque jour, nous avons donc cherché à éviter des définitions sur Dieu, sachant qu'aucune ne pourrait vraiment vous satisfaire. Nous avons préféré entendre des hommes de tous les âges nous dire ce que Dieu fut pour eux depuis Enoch, le premier à avoir prophétisé sur la fin des temps, jusqu'à Daniel, qui lui aussi reçut la vision des choses dernières dans lesquelles incontestablement nous sommes parvenus. Hier, nous entendîmes le témoignage de deux apôtres du Christ, Pierre, qu'il avait connu durant sa vie terrestre, Et Paul, autrefois Saul de Tarse, qui eut une révélation du Christ glorifié, car si le Christ n'est plus visible sur la terre, il est pourtant dans le ciel. Un homme est dans le ciel. Il n'est ni russe, ni américain. Un homme glorifié est dans le ciel et il est le modèle de ce que nous serons un jour. Alors aujourd'hui, c'est à Jean, un autre apôtre, que nous voudrions poser notre question thème. Jean, qui donc est Dieu? Mais d'abord, qui es-tu? Je suis le fils de Zébédée et de ma mère Salomé. Mon père Zébédée était un pêcheur qui avait tout un commerce. Il était patron et en dehors de mon frère et de moi, il avait des ouvriers. Ma mère Salomé était une femme très ambitieuse pour nous. Elle pensait à notre avenir. Et un jour, à ce Jésus de Nazareth qui était devenu notre maître, elle a osé, devant même nos collègues, lui dire « Tu sais, maître, je voudrais que tu donnes à Jean et à Jacques une place à ta droite et à ta gauche », qui avait passablement irrité les autres disciples. Mais c'était ma mère, elle avait du cran, elle osait demander. Et comment avons-nous été amenés, Jacques et moi, à suivre le maître Jésus? Eh bien, moi j'avais des besoins spirituels. Et j'étais allé au bord du Jourdain quand on nous parlait que Jean-Baptiste, c'est le fils de Zacharie et d'Élisabeth, annonçait que le royaume de Dieu était proche. Moi, je désirais ce royaume. J'avais quand même des notions de l'Écriture sainte et je savais que le Messie devait venir. Et alors, je suis allé écouter Jean, je suis devenu son disciple avec André, le frère de Simon-Pierre, qui lui aussi avait les mêmes besoins. Et c'est ainsi que nous avons fait notre première rencontre avec ce Jésus qui est venu comme un simple homme pour être baptisé comme les autres, comme s'il était un pécheur comme tout le monde. Et Jean pourtant l'avait fixé et nous avait dit devant tous, mais voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et un autre jour, Jean, voyant Jésus marcher, a dit de nouveau la même chose, c'est l'agneau de Dieu. Alors nous avons suivi ce Jésus qui s'est retourné et qui nous a dit, mais que cherchez-vous? J'étais donc avec André et nous lui avons demandé, où demeures-tu? Il nous a dit, venez et voyez. Vous voyez, quand on demandait à Jésus quelque chose, il nous répondait. C'était absolument certain, il répondait à tout. Pourtant, il ne nous connaissait pas, nous n'étions pas même ses disciples. Et il nous a introduits là où il demeurait et nous avons passé des heures ineffables. Je me souviens, c'était la 10e heure quand ça nous est arrivé. On se souvient des heures où un événement précis est entré et a bouleversé notre vie. Puis nous sommes repartis, chacun à notre tâche. J'ai retrouvé mon frère et nous avons évidemment parlé ensemble de l'expérience que j'avais eue. Et figurez-vous que peu de temps après, voilà Jésus lui-même qui est là sur le bord du lac. Nous étions en train de réparer les filets avec mon père, quand tout à coup il passe et nous dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Et je vois que Pierre a aussi été appelé avec André. Alors, nous avons tout quitté, nous avons laissé la barque de notre père avec les ouvriers et nous nous sommes mis à le suivre, et c'est ainsi qu'un jour, après une nuit de prière sur une montagne, le Seigneur nous a appelés, il a changé le nom de Jacques et de mien, il nous a même appelés, vous vous rendez compte, fils du tonnerre, Boanerges. On était donc les fils du tonnerre, ça nous encourageait, et peut-être que ma mère, sachant qu'il nous avait appelés fils du tonnerre, ça l'avait encouragé aussi à demander une place pour nous, à la droite et à la gauche du Seigneur. Mais donc, nous avons été à son école, l'école de Jésus. Et les leçons qu'il nous donnait, et il nous prenait avec lui dans les visites qu'il faisait. Et c'est ainsi que nous avons vu la résurrection d'une jeune fille de 12 ans qui était encore sur son lit de mort. Elle venait d'expirer et Jésus lui a pris la main, lui a dit « Talita Kumi, jeune fille, lève-toi » et nous l'avons vue se lever. Alors qu'on s'était moqué de Jésus car il avait dit « Elle n'est pas morte, elle dort ». Et c'est ainsi que nous avons continué à l'école de Jésus. Nous avons fait des expériences avec lui sur le lac, dans les voyages, sur la montagne, dans certaines ascensions que nous avons fait avec lui. Et je me souviendrai toujours de cette ascension où, sur la montagne, tout à coup, nous avons vu notre maître, c'était tôt le matin, transfiguré. Lui, qui était si souvent couvert de poussière, ses vêtements avaient la blancheur de la neige. Et son visage était éclatant comme le soleil. Et avec lui, s'entretenait avec lui, Moïse et Élie. Et de quoi parlait-il? Il parlait de la mort qu'il allait subir à Jérusalem. Mais ce n'était pas possible. Et puis tout à coup, Moïse et Élie ont disparu. Et Jésus était là. Et Pierre, qui s'était endormi, mais qui... soudainement s'était réveillé, s'était écrié, « Seigneur, il est tellement bon que nous soyons ici. Faisons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Au fond, il mettait Moïse et Élie sur le même rang que Jésus, alors que Jésus ne pouvait pas être mis sur le rang de Moïse et d'Élie. Jésus ne peut pas être mis au même rang que les fondateurs de religion. Ce n'est pas possible. J'avais déjà compris cela, moi, dans mon cœur. Mais... il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Au lieu que nous construisions trois tentes, tout à coup une grande nuée nous a tous couverts et nous étions tous sous la nuée, dans une unité glorieuse. Et nous avons entendu là, figurez-vous, la voix du Père, la voix du Sinaï, mais nous l'avons entendue. Nous disons avec tellement d'amour, oh, cette voix douce et subtile qu'avait entendue Élie autrefois. Celui-ci est mon fils bien-aimé, mon élu, écoutez-le. Oh, quand on a entendu une chose pareille, nous n'avons plus qu'un désir, c'est vraiment de l'écouter jusqu'à notre dernier souffle. Mais nous sommes redescendus de la montagne, et alors les choses se sont aggravées. Jésus a dû faire des prédications extraordinaires après le jour des rameaux, où pourtant on l'avait acclamé en entrant à Jérusalem comme le roi. Mais dès le lendemain, les souverains sacrificateurs et les scribes cherchaient à le faire mourir. Et je me souviendrai toujours, il m'a envoyé avec un autre disciple pour préparer la Pâque. Il nous avait donné un signe conventionnel. Nous lui avions demandé, mais où veux-tu que nous mangions la Pâque? Il nous avait dit, allez à Jérusalem et vous trouverez là un homme qui porte une cruche d'eau. Alors c'était très facile parce que les hommes ne portent jamais une cruche d'eau. C'est toujours les femmes qui portent les cruches d'eau, qui portent l'eau. Alors il nous a dit un homme. Alors nous l'avons tout de suite reconnu, nous l'avons suivi. Vous savez, Jésus n'est pas compliqué quand il veut nous enseigner. Il nous donne toujours les moyens les plus simples. Alors nous avons suivi l'homme à la cruche et nous avons trouvé une chambre haute où tout était préparé. C'est extraordinaire, nous n'avions rien à faire, simplement à obéir et à nous placer comme il le voulait. Puis là, je n'ose pas vous dire tout ce qui s'est passé. Nous avons été des dégoûtants, des grossiers personnages. Nous nous sommes assis là, à table, à notre place. Et puis personne n'a fait le service. Alors lui, il s'est levé, comme il faut toujours le faire. C'est lui qui s'est levé. Il a pris le baquet d'eau, puis il est venu nous laver les pieds aux uns aux autres. Je rougis de honte encore quand je pense, pourtant je l'aimais tellement. J'étais très intime avec lui. Je n'ai pas pris le bassin pour continuer le service. On l'a laissé nous laver les pieds. Je vois encore aux pieds de Judas qui se laissait laver les pieds. Alors que, vous le savez, il avait déjà comploté pour vendre son maître pour 30 pièces d'argent. Alors voilà, tout cela, oui, j'ai vécu cela. Et puis, après, nous avons été à Gethsémané. Et là, Évidemment, nous l'avons vu dans l'agonie. Et puis, au lieu de prier avec lui comme il nous l'avait demandé à nous trois, Pierre, Jacques et Jean, nous nous sommes endormis. Il est venu deux fois nous réveiller et nous a dit, mais vous ne pouvez pas même prier une heure avec moi. Puis à ce moment-là, eh bien, nous avons vu son visage couvert de sueur sanglante. Nous étions bouleversés, puis tout à coup, on a entendu des pas dans le jardin, et on a vu des flambeaux qui arrivaient, et c'était Judas, avec les gardiens du temple, avec les hommes de Caïphe. Et ils sont venus, Jésus est allé au-devant, il leur a dit, mais qui cherchez-vous? Dans un calme absolu, ils ont dit, Jésus de Nazareth. Mais c'est moi. Et ils sont tous tombés, on les a vus tomber, là, par terre, à se casser la figure, tous par terre devant lui. Et puis, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Mais je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il nous a couverts complètement. Nous avons pu nous en aller. Mais Pierre a voulu se battre. Et le pauvre Pierre, il avait une épée, puis il voulait bien fondre le crâne. Mais il a raté son coup, il coupe une oreille. Alors, évidemment, il était vexé. Parce qu'encore, Jésus lui a dit, mais Pierre, quel travail. Tu me donnes encore à faire. Et il a dû coller l'oreille. Pierre se disait certainement, si au moins j'avais réussi mon coup, il serait mort et Jésus aurait fait un plus grand miracle, puisque remettre une oreille, ça ne voulait pas les toucher beaucoup. Mais s'il avait été mort, puis qu'il soit ressuscité, peut-être ça aurait tourné autrement. Mais voilà, alors, Jésus a été arrêté, il s'est laissé faire. Comme un agneau, on l'a attaché, puis on l'a conduit. Puis Pierre suivait de loin. Et moi j'avais des amis chez Caïphe. Et j'ai rendu le plus mauvais service de ma vie à l'apôtre Pierre. Parce que moi, je pouvais entrer dans le chez Caïphe, parce que j'avais une connaissance. J'ai voulu rendre service à Pierre, qui brûlait lui aussi, de voir comment ça allait se passer. Puis il est entré. Mais s'il n'était pas entré, peut-être qu'il n'aurait pas rencontré la servante. Et peut-être qu'il n'aurait pas renié le maître. Mais moi, j'ai voulu lui rendre service. Vous savez, faites attention, quand vous voulez rendre trop service aux autres, vous les piégez quelquefois, mais moi j'ai l'impression d'avoir piégé Pierre. Et alors, il a renié son maître, mais je me suis souvenu que Jésus l'avait dit, et tout à coup le coq a chanté. Et j'ai vu Pierre s'en aller, pleurant amèrement. Et puis, vous connaissez la suite. Il a été arrêté, il a été jugé devant Pilate, et il est allé portant sa croix au calvaire. J'étais là, je soutenais Marie, j'étais au pied du calvaire, j'ai entendu le marteau, j'ai entendu les clous, j'ai vu le corps de mon Seigneur dressé sur la croix, Jésus crucifié. Non, ce n'était pas possible, et Marie était sur mon cœur, elle le regardait, et tout à coup, on a vu qu'il nous voyait, et il a parlé à sa mère, et il m'a mentionné aussi, il a dit, femme, voilà ton fils, fils, voilà ta mère, vous vous rendez compte? Alors depuis ce jour-là, je l'ai pris chez moi. Marie a été chez moi et vous pouvez bien comprendre ce qu'elle m'a dit, que les autres ne savaient pas. Toutes les paroles de l'enfance, moi je les ai entendues parce que Marie me racontait tout ce qu'elle avait gardé dans son cœur sur Jésus, sur toute cette période mystérieuse. Moi j'ai entendu ces choses. Alors vous comprenez, vous me demandez maintenant qui est Dieu pour moi. Ah, mes amis, je l'ai vu crucifié. Et puis, j'ai vu dans le tombeau, on l'a porté avec Nicodème et Joseph d'Arimathée dans le tombeau de Joseph. Mais, trois jours après, nous l'avons vu ressusciter Marie-Madeleine comme une folle est venue nous trouver le matin. Vous auriez dû voir ce jogging que j'ai fait avec Pierre. Hein. On a commencé à courir à toute allure. Et puis, moi j'étais plus jeune, évidemment, je suis arrivé le premier. Mais j'étais un peu hésitant, et Pierre, lui, il est entré dans le tombeau, parce qu'il veut toujours mettre son nez partout. Il l'a vu. C'était vite. Alors nous avons cru, mais on est reparti. Tandis que Marie, Madeleine, elle est restée là. Et puis elle est venue nous dire après qu'elle l'avait vu, qu'il lui avait même parlé, qu'il lui avait dit, va, dis à mes frères, je monte à mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Ah, mes amis, vous voulez savoir qui est Dieu? Bien oui, moi. Je l'ai vu. Vous voulez savoir qui est Dieu? Eh bien, lisez ce que j'ai écrit, le prologue de l'évangile de Jean. Au commencement, Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Et puis, je dis après, et la parole devint chair. et nous vîmes sa gloire. Et si vous voulez savoir comment nous la vîmes, cette gloire, dans ce Fils unique qui seul révèle le Père, parce que nul ne peut connaître Dieu en dehors du Fils, eh bien, lisez ma première épître. Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, et nous l'avons vu, la vie, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Et nous vous annonçons ces choses, afin que votre communion soit avec Dieu, Dieu connu comme un Père. Et nous avons saisi que Dieu voulait que nous soyons vraiment ses propres enfants. Le Fils unique l'est, par filiation, mais nous, nous le sommes, par adoption, nous sommes enfants de Dieu. Relisez mon évangile et vous saurez qui est Dieu. Relisez mes épîtres et vous saurez que je m'écris à un moment donné, Dieu est amour. Il est amour et il veut que nous demeurions dans son amour. Et si nous demeurons dans son amour, nous demeurons en Dieu et Dieu est vu en nous par le monde qui connaît maintenant l'amour. Et si vous voulez en savoir encore plus, lisez l'Apocalypse, cette révélation que j'ai reçue alors que j'étais à Patmos en exil. J'ai eu la révélation pleine de Jésus et de la gloire à venir, de tout ce qui va venir. Et alors vous serez renseignés et puis dans vos cœurs, vous vous serez mis tellement à l'aimer votre Dieu qui ne sera plus un Dieu de loin, mais un Dieu tout proche, un Dieu en vous, l'espérance de la gloire. Et connaissant le désir de son cœur, vous rejoindrez son désir et vous direz avec toute l'Église, viens, Seigneur Jésus. Dieu notre Père, oui, c'est le cri de notre cœur. Tu nous dis, je viens bientôt. Oh, c'est merveilleux de penser que nous allons te voir. Nous n'allons plus entendre parler de toi, mais nous allons te voir. Nous allons être avec toi pour toujours. En attendant, fais-nous connaître ton bras. Donne-nous de monter de ce désert qu'est ce monde. Appuyé sur le bras de notre bien-aimé, mais sachant où nous allons. Vers la cité sainte, vers la cité glorieuse, vers le temple de cristal. Ô Dieu, nos cœurs se réjouissent de ce délogement final. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Amen.